Mon cher Pierre-Yves, ce matin, tu poses la question suivante. Je souhaite, je rêve me lancer en affaires. As-tu pensé à être un intermédiaire dans le processus?
Oui, j'ai...
Ça veut dire quoi, ça?
Ah, parce que pas dans les courriels plates que je reçois souvent... Puis
comment plates?
Communiqués de presse. Oh, oui, je reçois des courriels plates de communiqués de presse,
ah,
d'entreprises, des associations. Puis là, ça intéresse pas le monde de dire « telle entreprise qu'on connaît pas, acheter telle entreprise, tu fais une alliance avec telle entreprise. » Mais quand tu fais l'ensemble de ces nouvelles-là ensemble, tu te rends compte que les intermédiaires, ceux qui ne sont pas le client final ou le fournisseur de services ou le fournisseur de biens, ils ont une valeur beaucoup plus grande qu'on pense. Oui, là, je vais vous parler d'Uber puis d'Airbnb, puis bon, vous êtes habitué à ça. Mais là, ce matin, vous lisez la presse, puis vous apprenez qu'un courtier hypothécaire en ligne, Nesto, maintenant, dit, garde, on fait 100 millions de dollars de prêts hypothécaires par mois. On est allé chercher 76 millions de financement. Puis là, tu dis, attends une minute, là. Il y a ça, les applications de téléphone. Ça nous amène à changer notre regard. Je te donne un exemple. Tu arrives dans un café, les gens me disent « Ah, moi, quand je rentre dans un café, puis arrive, je sens le café, le muffin. » Non. Regarde le système de paiement, le iPad. C'est Lightspeed qui a acheté Equid, puis New Order, Shopify avec la vente en ligne. Et donc, il y a des intermédiaires. Et moi, ce qui me fascine le plus, et la chose qu'on n'a pas vu disparaître parce qu'on n'y porte pas attention, c'est la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse est partie. Et pourquoi? Parce qu'il y a une panoplie d'entreprises maintenant qui prennent une cote sur nos transactions. Donc, quand on y pense, un commerce a besoin d'un système de paiement, un système de caisse maintenant, et souvent un système de vente en ligne. Donc, il y a plusieurs entreprises qui rentrent là-dedans, plus les intermédiaires. Et donc, si tu vas voir une entreprise comme Lightspeed, tu te dis, mon Dieu, 160% de rendement en bourse depuis un an. Fait pas d'argent encore, là. On fait des, tu sais, disons, pour...
Mais 2000... comme beaucoup de ces nouvelles entreprises, là, qui sont, pendant des années, font pas un sou, mais qui font miroiter un potentiel extraordinaire.
Oui, mais qui s'en vont chercher, quoi, pendant ce temps-là?
Ah ben oui.
Un réseau incroyable. Et dis-toi que si le commerce fonctionne ou fonctionne pas, l'entreprise fait une cote. Puis là, c'est sûr que ces entreprises-là sont encore neuves ou nouvelles dans la tête des gens, mais je vais aller dans les vieilles. Mastercard. Mastercard est probablement le petit fantôme qui s'est faufilé dans la pandémie sans trop lever le chapeau, mais dire, écoute, nous autres, là, quand les gens arrêtent de payer cash, on encaisse plus qu'avant, on fait des frais de transaction. Donc, l'entreprise, l'action qui était, il y a quelques années, à la moitié de la valeur d'aujourd'hui, tranquillement monte. Puis quand Mastercard fait 4,2 milliards de revenus dans 3 mois, Paul, dans 3 mois, fait quand même 1,8 milliard de bénéfices nets. C'est toute une marge. Et donc, les intermédiaires de ce monde-là se servent tranquillement avec des cents sur des transactions, des dollars sur des transactions. Mais au bout de la ligne, ce qui est merveilleux, c'est d'être un intermédiaire dans le monde d'aujourd'hui. Parce que les entreprises qui se fournissent des produits ou des services qui meurent sont remplacées par d'autres. Et ils ont ou elles ont toujours besoin.
Mais là, ça revient à dire d'avoir la bonne idée, là. C'est-à-dire comment je peux jouer un rôle avec quelle application, quelle plateforme. Puis si tu as une bonne idée, puis tu la développes.
Ouais, mais t'es pas une idée intermédiaire.
Oui, non, mais c'est ça.
Dis-moi pas que tu veux vendre du linge.
Non, non, ça.
Comment tu vas aider la personne qui vend du linge à y prendre une cote sur sa transaction? Dis-moi comment le café du coin qui te vend un café à 4,65 en payant son monde au salaire minimum va être obligé de te payer à chaque transaction pour son système, pour être en affaires. Puis le jour où tu vas faire faillite, cet intermédiaire-là, il va attendre le prochain qui va louer le local, puis il va y revendre sa solution. Donc ça, c'est merveilleux parce que oui, tu as un risque d'affaires, oui, tu es gros, mais quand tu réussis à t'implanter dans ces affaires-là, tu prends une part du marché sans vraiment être là dans la tête du consommateur.
Maintenant, tu as regardé les résultats de la Société québécoise du cannabis et la Société des alcools du Québec.
Oui, et je dis, le regard économique doit être différent parce que la SQDC, on va se le dire, là, 66 millions de bénéfices nets pour l'instant 2021, c'est rien par rapport à la SAQ. C'est comme le petit frère des pauvres de la SAQ. Mais... c'est pas le but. Le but de la SQDC, c'est de rendre le pot légal et surtout le pot qui, disons, qui est légal, qui paye sa juste part de la chaîne. Les gens me disent « Oui, mais c'est à peu près le même prix que le marché noir ou le marché illicite. » Non, mais regardez pas ça. Regardez qu'il y a un commerce de coin de rue qui paye sa part. Il y a un employé qui est rémunéré. Il y a un intermédiaire de transport qui paie ses impôts. Il y a un fournisseur au début qui n'est pas dans un champ caché, lui. Donc, ça a une valeur. Donc, est-ce que la SQDC, qui est allée chercher 53% du marché illicite, doit être là pour faire de l'argent comme la SAQ, ou plutôt la SAQ doit être là pour fournir un gros volume d'achats puis nous donner des bons prix, techniquement, ou doit être là pour, ou la SQDC doit être là vraiment pour rendre la consommation ordonnée, sympathique et, disons, contrôlée. Et moi, Paul, c'est là-dessus que je suis. Si on me disait que la SQDC ne fait pas d'argent, je ne serais pas révolté parce que, dans le fond, la société, pendant quelques années, va chercher de l'argent qu'elle n'allait pas chercher. Et les personnes qui consomment des substances, parfois ont besoin de soins aussi. Mais c'est drôle, hein? En rendant le pot ou le cannabis légal, on accorde des fonds pour les systèmes qui sont liés à ça, au support de ça. Et donc, tout le marché illicite qui allait quand même à l'hôpital, qui allait quand même utiliser la société sans déclarer des revenus, mais là, t'as quelque chose. T'as quelque chose d'intéressant. Et pour avoir fait une analyse récemment, le gramme de cannabis sur le marché de la SQDC est 6,74 $ en moyenne. Puis sur le marché illicite, 5 $ Mais ça, c'est 6,74 $, c'est le prix moyen. Donc, il y en a des moins chers et des plus chers.
Mais écoute, la grille de tarifs est assez en ligne sur le marché noir. Là. C'est-à-dire oui. que il y a des produits plus haut de gamme, là, mais... Oui. Disons que l'objectif, c'est aussi de combattre le crime organisé. Sauf que le crime organisé, là, ça fait un bout qui est passé à autre chose que le cannabis.
Pour vrai?
Ben, en tout cas, une partie encore, mais tu comprends? C'est comme quand, à l'époque, on a légalisé l'alcool, on pensait faire mal au crime organisé qui avait des bouclegs puis tout ça. Il y a un vieux principe. Le crime organisé a toujours un coup d'avance sur les changements.
C'est des scientifiques. On non, comble mais, le vide.
Écoute, le parrain numéro un, c'est le débat, là. Est-ce qu'on sort de nos vieux rackets comme la prostitution puis la protection, puis est-ce qu'on touche à la drogue, puis les vieux parrains veulent pas toucher à la drogue parce qu'ils trouvent ça épouvantable, puis les plus jeunes s'en sac. Fait qu'il y aura toujours, tu sais, ça va être du fentanyl, ça va être autre chose, ça va être... Je veux dire, c'est correct, là, mais de penser qu'on va faire très mal au crime organisé, oublie ça, là.
On va faire mal à la fumée, disons.
Peut-être.
Salut.
Salut, à demain, 7h25.